Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et cette semaine, on a une émission spéciale Salon de l'Auto de Montréal. On est le 19 janvier. Hier, le 18, c'était la journée de presse du Salon de l'Auto. Et puis, Marc et moi étions présents au salon. Donc, on a enregistré des blocs en direct du salon. Donc, vous allez avoir cette semaine des entrevues. Et on va commencer avec un bloc où moi et Marc parlons un peu de nos impressions de ce qu'on a vu au salon cette semaine. Donc, je vous envoie directement là. Et puis, je vais revenir de temps à autre pour introduire les entrevues qu'on a faites.
Alors Marc, on est en direct.
Ce qui explique d'ailleurs la qualité sonore, on va le préciser tout de suite.
Bon, on s'excuse un peu, là, il va y avoir des entrevues, il va y avoir beaucoup de choses qu'on a fait au salon direct. Puis ben, on a tout fait au salon direct, à part l'intro que vous venez d'entendre. Puis, donc c'est fait sur un micro portatif, donc le son va être un peu moins bon.
D'une part, et c'est fait aussi avec les bruits d'ambiance. À un moment donné, vous allez entendre probablement toutes sortes d'affaires en arrière, des annonces, de la musique. Bref, bienvenue au Salon de Montréal avec nous.
C'est ça, bienvenue. C'est ça. Donc Marc, Salon de Montréal, qu'est-ce que tu as retenu de ta journée?
En fait, beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime du Salon de Montréal, c'est que c'est pas un salon qui est prétentieux.
Ouais.
Donc c'est un salon qui veut des véhicules ou, comment je pourrais dire, véhicules qui s'adressent à monsieur, madame, tout le monde.
Ouais, il y a des choses plus exotiques, mais il y a beaucoup de choses pour tout le monde.
Mais en même temps, ça rend les choses accessibles pour tout le monde.
Ouais.
Oui, c'est vrai que Rolls-Royce a présenté, en fait, la première canadienne de sa nouvelle Phantom. On s'est d'ailleurs assis à l'intérieur.
Mm-hmm.
Et c'est magnifique en passant.
Ouais.
Et on a fait une entrevue que vous entendrez un peu plus tard. On a vu les exotiques Aston Martin, Lamborghini qui a fait des dévoilements, Ferrari qui est ici aussi, McLaren qui est ici. Bref, il y a même la Koenigsegg. Attends, Koenigsegg. Agera RS ou. En tout cas.
C'est pas la One and One qui a apporté? Non, c'est
non,
la
c'est
RS.
C'est ouais. La RS, c'est la voiture la plus rapide au monde.
Ouais.
Celle qui détient le titre, elle est à Détroit. Elle était à Détroit et elle est ici. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, on fait vraiment dans l'exotique, ça, c'est vrai. Mais les lancements, moi, quand je te parle de pas de prétention, c'est que les dévoilements qui sont ici sont des véhicules vraiment faits pour tout le monde. Et il y a beaucoup de choses, à ma grande surprise, qui ont été dévoilés à Détroit, qui sont ici.
Oui, c'est rare. Normalement, on était boudés un peu.
Oui.
Fait que ça veut dire qu'il y en a deux copies, non pas juste une copie.
Ben en fait, c'est des véhicules de production.
Ouais, c'est ça.
Ça a été le cas du Jeep Cherokee, par exemple. Ça a été le cas de la nouvelle Jetta 2019 de Volkswagen.
Mm-hmm.
Donc, pas mal de choses qui sont quand même surprenantes. Et bon, d'autres qui le sont moins. Bon, OK. On va enfin avoir le Outlander PHEV de Mitsubishi.
Ça commence à être temps.
Attends, est-ce qu'on peut se faire un petit roulement de tambour, là? Juste pour souligner l'effort.
Ouais.
Ça fait 4 ans qu'on l'attend.
À chaque année, on en parlait avec les gens de Mitsubishi. Ah, ça s'en vient.
C'est ça.
Ah, mais là, l'année d'après, ah, ça s'en vient. Mais là, il était sur le stage, on l'a vu.
Et il est chez les concessionnaires.
Oui.
Alors ça, déjà, c'est un bon move.
La seule question que j'aurais aimé avoir pour le représentant Mitsubishi, c'est le gouvernement a commandé 77. Ça en laisse combien pour le restant du monde?
Moi, ce qu'on m'a dit, en fait, chez Mitsubishi, c'est qu'il n'y avait pas d'allocation précise. Donc, ils vont en avoir tant qu'ils en vendent.
Okay.
Il n'y a pas de limite quant à l'allocation pour le Canada. Donc, on va être capable de l'avoir tant qu'en vendent.
C'est un véhicule qui peut être intéressant. C'est un VUS 4 roues motrices avec hybridation. Donc, qui peut se brancher. On doit parler d'une cinquantaine de kilomètres
on
d'autonomie.
On parle de 51, si je me souviens bien. Un petit peu moins 45, si je me souviens bien.
Bon, c'est dans la norme.
Oui, c'est ça.
C'est quand même bien pour les gens qui veulent avoir encore un VUS, mais qui veulent dépenser un peu moins d'essence.
C'est ça. C'est effectivement un bon choix. Tu viens de parler d'une nouvelle une des nouvelles qui a été annoncée aujourd'hui ici. C'est l'achat par le gouvernement de 77 Mitsubishi Outlander PHEV.
Mm-hmm.
C'est intéressant. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que les gens du gouvernement étaient ici pour une deuxième annonce aussi. Et ça m'a un petit peu pris par surprise.
Tu parles de Toyota?
Toyota qui a présenté la Toyota Mirai, OK, mm-hmm. On va le dire.
Que tu as été essayé, toi, déjà.
Que moi, j'ai essayé, effectivement. Une voiture qui est agréable, là, qui n'est pas... écoute, c'est pas le grand frisson, on s'entend, là. C'est une Toyota, c'est comme une Corolla électrique, là.
Ouais, mais quoi que la nouvelle Camry...
Ouais, non, j'avoue, ils font des efforts. Ils font des efforts, mais non, c'est pas la plus palpitante. Mais c'est quand même intéressant, puis ça se conduit bien et tout. Mais c'est pas ça qui est la nouvelle. La nouvelle, c'est qu'elle va être vendue au Québec.
Ouais.
Et ça, c'est une grosse nouvelle. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, il y aura des Toyota Mirai à hydrogène, monsieur, qui vont circuler sur les routes québécoises. Et la compagnie, le nom m'échappe, la compagnie qui est en train de développer le réseau de bornes de recharge a aussi des projets intéressants. C'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, on nous garantit la mise en place de 2 bornes, une à Montréal, une à Québec.
Oui.
OK? Mais la technologie à hydrogène, elle est particulière parce que la technique utilisée, c'est que tu as la borne de recharge qui est aussi la borne productrice d'hydrogène.
Ça fait que ça fait les deux.
Et celle-là peut non seulement s'alimenter elle-même, mais elle peut alimenter un petit réseau de distribution pour 3 ou 4 bornes autour.
Ouais, ce qui va être bien, parce que le problème, c'est la production d'hydrogène présentement. C'est difficile à produire. Fait que donc, si on a ce genre de système-là, ça va être bien, ça en prend.
Exactement.
Si on veut vendre des voitures, ça prend des bornes pour les recharger.
Oui, et ça veut dire que ça va se développer beaucoup plus rapidement parce que tu n'es pas obligé d'avoir un site de production d'hydrogène. Tu as vraiment ton réseau. Et ça... Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle. On verra, évidemment, on n'a pas parlé de prix, on n'a pas parlé de prix d'hydrogène, non. On n'a pas parlé de rien. Ce qu'on sait, c'est que la voiture va arriver. On sait aussi, puis Hyundai en a parlé, qu'ils ont... une deuxième génération du fuel cell, du Tucson fuel cell.
Mm-hmm.
Et le président de Hyundai, Don Romano, a confirmé qu'il était pour amener ce véhicule-là au Canada aussi, en deuxième génération.
Parce qu'il est déjà à Vancouver.
Il y en a un au Québec.
OK. Ouais.
Qui a été prêté au responsable des flottes du gouvernement du Québec qui est à Trois-Rivières, parce que c'est à Trois-Rivières qu'il y a pour le moment la seule borne de recharge d'hydrogène.
OK. Ben, ça donne bien.
Alors donc, on vendra au Canada la deuxième génération du Tucson Fuel Cell. Donc, vraiment, l'hydrogène, je sais qu'il y a beaucoup d'électromobilistes qui sont contre ça pour toutes sortes de raisons. Là. Puis je ne veux pas me lancer dans un débat technique, puis je ne veux pas me lancer dans rien. Moi, ça fait 5 ans que je dis que l'hydrogène va occuper une grande place dans 10 ans, donc dans 5 ans maintenant, que ça va occuper une grande place sur le marché. Je pense qu'on est en train de se diriger vers ça. L'avantage de l'hydrogène, il est fort simple. C'est strictement une question d'utilité.
De rapidité de recharge.
C'est une station-service, littéralement.
C'est mettre l'essence dedans, mais sauf que tu pollues pas.
C'est ça. Tu arrives, tu remplis, tu repars, tu as 500-600 km d'autonomie, tu n'as pas à te casser la tête, c'est comme ta voiture, ça prend le même temps, tu n'as pas 1 heure à attendre, tu n'as pas à calculer ton parcours parce qu'il y aura des stations un peu partout si jamais il y en a.
Ouais.
On sait qu'en Europe, ils sont en train d'en développer. Bref, ça, c'était la grosse nouvelle, à mon avis, qui a retenu mon attention.
Ouais.
Beaucoup de nouveaux modèles aussi qui ont été dévoilés, beaucoup de premières canadiennes, quand même des véhicules importants. On parlait de Hyundai qui a présenté l'Accent 5 portes, que moi j'avais vu quand je suis allé essayer l'Accent tout court.
Ouais, t'es présente. Hein?
Ouais, j'avais d'ailleurs publié une photo de cette même voiture-là, mais on n'avait pas pu la conduire. Donc là, on a présenté l'Accent 5 portes. Mm-hmm. On nous a finalement présenté le Kona.
Un beau petit VUS.
Ah, c'est magnifique.
C'est un peu Niro-esque.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait,
même grosseur, même plateforme.
On s'entend pour dire que c'est la même compagnie.
Ouais, c'est ça.
Donc, oui, effectivement, c'est un beau petit véhicule intéressant, qui est cute, qui est sympathique comme tout. On va espérer qu'il va bien percer. On sait qu'il y aura une version électrique. On sait qu'il y aura une version branchable aussi.
Même si Hyundai ne veut pas en parler. J'ai posé la question. On a détourné la question en disant « Ouais, mais on s'en vient avec ces deux motorisations en partant.
Ouais, mais
on ne veut probablement pas couper le gazon en dessous des pieds de Kia non plus. »
Ouais, mais je peux dire que le président m'avait dit auparavant, 2 minutes avant, que ça s'en venait.
Oui, on le sait que ça s'en vient. C'est un secret de Polichinelle. Les tests hivernaux ont été faits.
Il nous l'avait dit. Alors, donc, ça s'en vient. Donc, le Kona, c'est un des véhicules intéressants. Que j'ai trouvé intéressant, du moins. Les amateurs de voitures électriques vont être heureux de voir la nouvelle Nissan Leaf.
Oui, que j'ai pu prendre quelques photos.
Oui.
J'aime beaucoup l'intérieur. J'ai resté surpris. Les sièges ont l'air beaucoup plus avancés. On a des petites lignes des espèces de petites lignes dedans. Là. C'est vraiment joli, comme cuirette et tout ça. Je trouvais qu'on avait donné au moins un accent à l'intérieur. C'est pas plate à regarder.
Non, effectivement, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est mignon, c'est plus moderne. C'est bien fait. Écoute, et ça, là, une capacité de 241 km.
Qui va être correct pour une bonne partie des gens qui ont déjà des voitures électriques, qui veulent juste un peu plus.
C'est ça.
Est-ce que ça va aller chercher un nouveau public? Je ne penserais pas nécessairement avec cette voiture-là.
Ben, c'est le problème, en fait. Là. C'est exactement ça, la difficulté. En tout cas, on verra donc ce que ça va donner.
Mais on sait déjà que l'année prochaine ou dans 2 ans, on va arriver avec une version à 300 km et plus.
Oui, c'est ça.
Donc, ces gens-là peuvent attendre un peu.
Mais, bon, au moins, on nous la présente ici à Montréal. On nous présente aussi, je dois le dire, le Kicks.
Le kick. Ce qui, moi, je pensais que ça remplacerait le Juke, mais pas nécessairement pour l'instant que tu m'as dit.
Non, quand ils l'ont lancé à Los Angeles, ils l'avaient dévoilé à Los Angeles, on nous a confirmé que ça ne remplaçait pas le Juke, que c'était un VUS supplémentaire.
Un à côté.
Complémentaire à la gamme. Tout comme, étonnamment, hein, on parlait de Hyundai, mais Monsieur Romano, le président, m'a dit que là, il s'en venait avec bon, toutes sortes de véhicules remaniés au cours de la prochaine année et tout, avec un gros, gros VUS, plus gros que le Santa Fe actuel.
Mais ça, ils en ont déjà eu un.
Ils en ont déjà eu un, ils l'avaient abandonné.
Ouais,
c'était quoi? C'était le Veracruz.
Veracruz.
Ouais, après ça, il y aura un petit VUS plus petit.
Quel Kona encore?
Quel Kona.
Donc là, on parle vraiment d'un micro VUS. Là. Ouais. On verra ce que ça va donner. Mais oui, les VUS, ça a la cote. Les gens veulent des VUS, mais ils veulent pas des gros VUS. C'est un peu comme bizarre de vouloir un petit bébé VUS, mais bon, c'est la là, grosse c'est... mode. Là, c'est
là on parle vraiment d'un bébé. Là. Ouais. T'sais, là, on parle de quelque chose qui est plus petit que le Kona. Là.
Vraiment bâti sur l'accent ou quelque chose comme ça.
Ouais, il me parlait de Nissan Juke qui est un peu plus petit. Alors, on est vraiment dans le
déjà, un joke, c'est pas gros, là. OK.
Fait que, donc, c'est ce qu'on a promis chez Hyundai. Écoute, on peut pas passer sous silence chez Kia, la Forte 2019. Une autre voiture qui avait été dévoilée à Détroit, qui est aussi dévoilée ici au Salon de l'Auto.
Ouais.
Quand même, c'est pas rien. C'est une voiture qui est extrêmement populaire chez nous, pour laquelle on s'est basé beaucoup, beaucoup sur la nouvelle Kia Stinger.
Ouais.
Donc, ça, c'est intéressant.
Ben, à de la gueule.
À de la gueule.
Ça fait du bien, parce que souvent, les voitures dans cette catégorie-là, ça n'a pas vraiment de tu sais, ça a pas l'air agressif, ça a l'air plate un peu.
C'est ça.
Mais au moins, Kia ont donné une allure un peu agressive, un peu plus, tu sais, c'est beau, là, c'est joli.
Oui, non, je pense que moi, je trouve ça magnifique. En tout cas, j'adore. Et, Cadillac qui nous a présenté le concept Escala.
Escala.
Quelque chose comme ça. En tout cas, superbe design. Vraiment, un design absolument... incroyable, c'est magnifique, c'est de toute beauté.
Mais ça reste un concept.
Mais ça reste un concept qui verra probablement jamais le jour. Mais non. En tout cas, c'est que veux-tu, ça fait partie de la vie.
Volvo X40.
Volvo XC40 que moi, ouais, j'adore, je trouve beau.
Très
comme
joli.
Tout.
J'ai trouvé beau les petits drapeaux suédois, oui, juste sur le côté du capot. Là, on a inséré comme des petits drapeaux suédois. Je trouve ça bien, je trouve ça fait beau.
Et c'est le je suis posé aller l'essayer en février. Je t'avoue que j'ai très hâte parce que c'est un véhicule que vraiment je trouve extrêmement joli et extrêmement intéressant. Écoute, si on peut faire le tour, Infiniti, qui est le QX50.
Ouais.
Ce qui est intéressant du QX50, c'est pas nécessairement son look, c'est le fait que c'est le premier véhicule qui a sous le capot le fameux moteur à compression variable.
Ouais.
C'est la première fois dans l'histoire que ça se produit. Donc, QX50 2019, il est ici. Jeep Cherokee, le Jeep Wrangler, évidemment, de nouvelle génération. On en a déjà parlé parce que je l'ai essayé. Alors, pas mal de nouveautés. Et ce dont on n'a pas parlé, puis qu'il faut parler aussi, avant de faire une pause et de passer aux entrevues,
ouais,
il faut rappeler aux gens que si vous venez au Salon de l'Auto de Montréal, qui est au Palais des Congrès pour les 10 prochains jours, vous pouvez essayer aussi des voitures électriques par le CA. C'est des essais gratuits. Et c'est intéressant de le dire parce que tu le sais, ça marche partout où on le fait.
Pour les gens qui se posent la question, non, la nouvelle Leaf ne fait pas partie des essais
non,
pour l'instant. Peut-être à Québec, parce que Québec, c'est au mois de mars. Il y aura des voitures chez les concessionnaires, mais ici, vous allez pouvoir la voir, la nouvelle Leaf, mais vous ne pourrez pas la conduire.
Effectivement. Alors, donc, ça fait partie des nouveautés. Et le reste, écoute, on pourrait faire le tour. Là. Il y en a partout. 600 voitures réparties au Salon de l'Auto de Montréal. Moi, je pense que c'est une belle année du Salon. Qui célèbre, et ça, il faut en parler aussi 30 secondes, si tu permets.
Oui.
Qui célèbre son 75e anniversaire après avoir célébré l'année passée son 49e.
Oui. On a vieilli vite.
Oui, c'est fou. En fait, l'idée, c'est que ils ont fait des recherches et ils se sont rendus compte qu'il y avait des concessionnaires et toutes sortes d'associations qui, dans le passé, avaient fait des Salons de l'Auto sans être nécessairement la corporation dans sa forme actuelle. Alors, ils ont compté ces salons-là pour compter 75 ans. Dans les faits, le premier aurait été fait en, si je me souviens bien, c'est en 1906, en tout cas, il y aurait 104 ans aujourd'hui.
OK.
Donc, mais évidemment, il y a eu des interruptions, la guerre et tout, mais on célèbre donc le 75e anniversaire du Salon de Montréal.
Je pensais qu'il avait juste décidé de compter en année de chien à cette heure. Mais bon.
Alors, on va faire une pause, on va donner à Luc une chance d'aller se refroidir les idées, puis on vous revient avec les entrevues.
Alors, nous sommes de retour et on va commencer ce premier bloc d'entrevue avec une rencontre qu'on a eue avec M. Pierre Trudel de chez Ford Canada.
On va commencer par un bilan de Ford. Vous êtes sur une lancée au niveau des ventes, ça va très bien. Où se situe Ford au Canada et qu'est-ce qui explique le succès de Ford actuellement au Canada?
OK. Bien, pour le Canada, on a fini premier au Canada en 2017. Alors donc, huitième année consécutive. Marque numéro un aussi au Québec, troisième année consécutive pour le Québec. Et ce qui explique le succès, entre autres, ben, c'est notre offre de produits. De plus en plus, notre offre de produits amène des innovations au marché, que ce soit des innovations technologiques ou que ce soit des innovations de produits qui répondent aux besoins des consommateurs. Pour nous, chez Ford, est et restera toujours très important d'être à l'écoute des consommateurs, à l'écoute de notre clientèle et de s'assurer là, qu'on amène au marché les véhicules qui répondent à ces besoins-là. D'ailleurs, on le voit avec la famille de VUS qu'on a maintenant, en commençant avec l'EcoSport, que les gens peuvent voir aujourd'hui et pour les jours qui viennent au salon, qui est notre nouveau petit VUS.
Il arrive quand sur le marché?
Il arrive là, incessamment dans les jours qui viennent. Les premiers ont été embarqués sur les transports ferroviaires à partir de Halifax et devraient arriver là, dans les jours qui suivent. Alors, les tout premiers arrivent. Alors, vous avez l'EcoSport, vous avez l'Escape, vous avez le Edge, dont on vient annoncer une toute nouvelle version avec l'année modèle 2019. Vous avez l'Explorer qui est présent. Vous avez une nouvelle Expédition que vous pouvez également voir ici au Salon de l'Auto.
On le voit d'assez proche,
effectivement. Alors, ça nous fait une grande famille de VUS qui répondent à cette tendance lourde-là où les gens de plus en plus vont vers cette catégorie de véhicules.
On ne peut pas non plus ne pas parler de la série F, du F-150, version diesel qui arrive. C'est quoi les... Bon, il y a eu toutes sortes d'histoires avec les motorisations diesel. Les gens mélangent un peu n'importe quoi, on le sait. Arriver avec un camion diesel, c'est quoi les attentes, c'est quoi les objectifs que vous avez face à une motorisation diesel au Canada?
Ben, les objectifs, c'est on pense vendre environ 5% de notre volume de vente devrait être équipé du moteur diesel. Il y a une demande pour ce type de véhicule-là. Alors pour nous, encore une fois, c'est d'être à l'écoute de nos consommateurs et d'être capable d'offrir un produit qui répond à la demande. Vous le savez, les camionnettes de type série F sont nos grands gagnants chez Ford. C'est une grande force chez Ford d'être capable d'offrir autant pour les applications commerciales que les applications là, passagères ou autres récréatives un produit qui répond aux besoins de la clientèle. Et puis l'ajout de la motorisation diesel va faire en sorte qu'on va être encore plus capable de le faire.
On ne peut pas parler de Ford sans parler... Bon, vous avez parlé d'innovation, on a parlé d'électrification, il y a des annonces qui ont été faites récemment. C'est quoi le projet Ford en matière d'électrification?
Bien, le projet Ford, en fait, on vient d'annoncer tout récemment un investissement de 11 milliards de dollars. Un investissement global qui va amener 40 véhicules globaux au marché. 16 de ces 40 véhicules vont être des véhicules dédiés électriques et 7 de ces 16 véhicules-là vont être présents dans le marché nord-américain d'ici 2022. Alors, le projet de Ford, c'est d'amener des véhicules électriques au marché quand même dans un court laps de temps. Et puis d'être capable, encore une fois, c'est toujours dans la même optique, c'est d'offrir des produits innovants et qui répondent aux tendances de consommation.
On parle d'électrique traditionnel, là, électrique branchable dans le circuit, dans le réseau. On sait que le gouvernement du Québec, entre autres, vient de signer, bien, hier, a annoncé officiellement une entente avec Toyota concernant les voitures à hydrogène, notamment. Il y a de plus en plus de manufacturiers, notamment des manufacturiers européens. Bon, Mercedes-Benz qui propose un hybride électrique-hydrogène. On s'en va de plus en plus, on revient, je dirais, vers les piles à combustible, à l'hydrogène. Est-ce que Ford a un quelconque intérêt dans ce domaine-là?
On ne peut pas discuter de nouveaux produits, malheureusement.
Vous avez une formation de PR, ça?
C'est ça. Ça viendra quand les prochaines annonces de produits auront l'occasion d'être faites. Mais pour l'instant...
Sans parler de produits, je pense qu'on peut quand même parler des recherches en cours chez Ford actuellement. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens-là, sans parler de produits spécifiques?
Je ne peux pas m'avancer dans ce domaine-là. Je ne peux pas décrire ce qui est en recherche et développement. Ce que je peux vous dire, c'est que On a annoncé un véhicule qui est électrique, un petit SUV qui s'en vient au marché là, très bientôt. Et puis cet investissement de 11 milliards dans le développement de véhicules là, avec des moyens là, de motorisation alternatifs.
Parlant de technologie, il faut parler de la voiture autonome. Même si au Salon de Détroit récemment, il n'y a absolument personne qui a présenté de voiture électrique et de voiture autonome. La semaine précédente, cependant, au CES, c'était sur toutes les lèvres. On en est où chez Ford avec les véhicules autonomes?
Bien, chez Ford, on continue d'investir beaucoup. Puis là, je vais revenir un peu, une étape en arrière peut-être. On continue d'investir beaucoup dans les technologies qu'on appelle semi-autonomes parce qu'on est encore en phase de développement en termes de technologie semi-autonome. D'ailleurs, ici au salon, vous allez voir beaucoup de nos véhicules qui sont équipés là, des systèmes d'avertissement pré-collision, qui sont équipés des systèmes de freinage automatisé, qui sont équipés, par exemple, de Sync Connect avec les applications Ford Pass, qui sont tous des technologies qui sont soit axées sur la connectivité ou axées sur la sécurité, mais c'est ce qu'on appelle là, semi-autonome. On continue toutefois chez Ford d'investir des ressources, du temps, de l'argent dans le développement de plateformes pour véhicules autonomes. Et puis, ce seront au départ des applications qui seront de type commercial. Il va y avoir quelques sites aux États-Unis où ces technologies-là seront développées. Un des grands défis de la technologie des véhicules autonomes, c'est la congestion urbaine. Pour amener des véhicules autonomes au marché, ça prend aussi de la part d'un manufacturier comme Ford l'intérêt de faire partie de la solution plus globale au niveau de la gestion de la congestion urbaine. Puis quand on parle de congestion urbaine, c'est pas juste des voitures, là, c'est tous les types de transports, que ce soit transport public, le transport piéton, le transport vélo, tous les types de transports créent cette congestion qui est, on peut presque appeler organique dans les centres urbains. Alors, il faut faire partie de cette solution-là pour développer et éventuellement arriver à avoir là, des véhicules autonomes. Alors, on est encore dans le développement de ces plateformes-là. C'est encore là, les premières étapes.
Enfin, dernière question, parce qu'on ne peut pas passer au côté. Ford est aussi dans la voiture de performance. On l'a vu avec la GT, son processus d'achat hyper compliqué. On a aussi vu à Détroit la fameuse Mustang Bullitt. Parlez-nous un peu de la Bullitt. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et pourquoi est-ce que je bavais comme un petit garçon quand je l'ai regardée?
Bien, la Mustang reste et restera toujours un véhicule un peu au rang pour Ford. C'est une marque iconique. C'est une marque qui a son lot de clients là, loyaux. C'est un véhicule de performance qui est et qui restera dans le portfolio des produits de Ford. La Bullitt, c'est un véhicule, en fait, c'est le nom d'un film des années 1968, si je ne me trompe pas, avec Steve McQueen, qui avait vraiment permis à beaucoup de gens en Amérique du Nord de connaître ce qu'était une Mustang à l'intérieur de ce film-là. Et au fil des années, on a de temps à autre amené au marché une édition spéciale. Et on le fait cette année pour le 50e anniversaire de la Mustang. On ramène un Mustang Bullitt qui va être là, dans les plus pures traditions du véhicule, c'est-à-dire avec ce vert foncé Highland Ford, green, Highland Green, qui s'appelle cette couleur-là. Il va venir avec un moteur 5 litres. Qui va développer, je crois, tout près de 500 chevaux. Alors, ça va faire en sorte que ça va répondre...
c'est 475, en 475. Fait. C'est 10 de plus que la GT.
Voilà. 12. Alors, ça permet là, d'avoir vraiment là, un véhicule pour les enthousiastes de la marque Mustang et de s'assurer là, qu'on continue aussi à promouvoir l'aspect performance dans notre portfolio à travers la marque Mustang.
Mais merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Comme deuxième entrevue, on vous parle de vélo électrique. Moi et Marc, on se dirigeait vers le prochain dévoilement quand Marc a remarqué du coin de l'œil une compagnie qui lançait des vélos électriques à l'allure plutôt vintage ou vieillot. Donc, ça l'a attiré son attention puis il a voulu faire une entrevue avec un des deux propriétaires de l'entreprise.
Alors, quand on est au Salon de l'Auto de Montréal, on fait quelques découvertes un peu particulières. Le Café Racer, je ne suis pas certain que vous connaissez ça. Moi, je ne connaissais pas ça. J'avais vu un petit courriel passer rapidement, mais pas beaucoup d'informations, de la compagnie Ultracar. C'est une compagnie de Montréal. On est avec Danny Sedan. Danny, les Café Racer e-bike, c'est nouveau, là. C'est, vous profitez du salon pour les lancer.
C'est un nouveau produit que nous avons lancé ici au Salon d'Auto 2018.
C'est un vélo électrique. Qu'est-ce que, décrivez-nous techniquement, là, on fait combien, quelle vitesse?
Il est conçu pour aller 60 km tout seul, autonomie de 60 km. Si vous utilisez l'assistance de pédale, vous pouvez aller jusqu'à 100 km comme distance. Il y a 9 niveaux d'assistance de pédale, ça veut dire si vous voulez avoir un peu d'assistance ou plus d'assistance, vous pouvez régler ça. Il vient avec une batterie Samsung qui est faite en lithium, comme sur le Tesla, que vous chargez en 4 heures. Il vient avec des freins à disque. Les disques sont des freins qui sont branchés à un ordinateur. Ça veut dire que quand vous freinez, il coupe le moteur en même temps. Il y a disque en avant, disque en arrière pour le freinage. Il y a une suspension de mountain bike sur le vélo. Puis il y a aussi un système de changement de vitesse, comme un vélo régulier fait par Shimano avec 7 vitesses. Il est conçu vraiment pour le confort, okay, avec un grand siège, de grands pneus.
Ouais, il faut dire que le look est totalement vintage, là. On a vraiment l'impression de rouler des vélos des années 20, là.
Exactement.
Ben pourquoi avoir choisi ce look-là pour un vélo aussi moderne?
La raison principale, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de vélos électriques ont l'air comme une bicycle d'exercice. Ils sont carrés, ils ne sont pas très belles, avec les batteries externes. Ici, nous avons l'inspiration d'une vieille moto, comme une vieille Indian, une vieille Harley. La batterie est cachée dans un caisson d'aluminium à milieu qui ressemble ou fait une simulation d'un moteur. Tout est intégré, mais c'est vraiment aussi un fashion statement.
Vous avez aussi, et l'amateur de voitures que je suis n'a pas pu s'empêcher de remarquer, que vous avez des couleurs, je dirais, symboliques pour l'automobile. Vous offrez des couleurs uniques.
Exactement. Nous avons trois différentes couleurs. Nous avons en réalité six différents modèles en réalité de notre vélo. Nous avons l'inspiration, on a fait avec trois autres, des inspirations de vieilles vintage racing. Nous sommes inspirés par le vieil Golf Racing de Porsche, le Ferrari Rouge et les Martini Racing de Porsche encore une fois. Puis on va lancer ça aussi seulement pour les amateurs des anciennes voitures.
En tout cas, c'est magnifique. Je peux vous dire, je trouve ça très beau. Les sièges ont l'air confortables. On a parlé de distance, d'autonomie, 60 km. On n'a pas parlé de vitesse maximale cependant. À quelle vitesse on peut aller avec ça?
Vous pouvez aller à 35 km à l'heure. Mais bien sûr, si vous avez une cause, vous pouvez monter jusqu'à 45 km à l'heure. La beauté avec ça, vous n'avez pas besoin d'acheter l'assurance, vous n'avez pas besoin d'avoir un permis de conduire. Alors, c'est vraiment pour Monsieur Tout-le-Monde d'avoir un vélo comme ça.
Monsieur Tout-le-Monde qui a quand même un peu de budget, parce que c'est quand même 4 000 $, 3 995 $ pour le vélo, c'est pas donné. Où on peut acheter ces vélos-là?
Vous pouvez l'acheter chez des concessionnaires de voitures. Nous avons lancé ça avec Boisvert Ford, c'est notre premier concessionnaire qui va le vendre avec leur camion F-150 et 250. La raison principale, c'est si quelqu'un tire une roulotte ou un bateau, quand il arrive à leur destination, il y a un deuxième moyen de transport.
Ah, c'est une bonne idée. En tout cas, je peux vous dire que le design est magnifique. Je n'ai pas eu l'occasion de les essayer. Mais moi, je pense que ça va attirer les nostalgiques comme moi. Je vous remercie beaucoup, mon cher.
On va faire une petite pause, puis on revient tout de suite avec un deuxième bloc d'entrevue. Alors, nous sommes de retour. C'est maintenant l'heure d'aller au dernier bloc d'entrevue, avant-dernier bloc de l'émission. Et on va rejoindre M. Scott Talon de chez Jeep Canada pour la première entrevue. C'est malheureusement une entrevue qui est en anglais.
Of course, Jeep is the most renowned brand in the car business in the world. When you touch something like a Wrangler, mm-hmm. how do you approach this? Because you cannot make any mistake.
No, and when you think about new models coming to marketplace, and not FCA, but just in the industry as a whole, generally the life cycle is anywhere from 3 to 6 years. We do a new Wrangler once every decade or so. So to your very point, we have to get it right. We have to. And I think that we did, and a big part of that comes from our owner base, right? So we spend a lot of time communicating with our owners. Jeep has the number one social media following of any other automotive brand in the industry across the globe. So we have a huge resource of input from our owners, and they're very vocal. They're very passionate about their vehicles, so they tell us what they want. And furthermore, we go to Moab every year, and we have a big celebration every year in Moab, and gives us an opportunity to meet with the most hardcore enthusiasts in the world, really, that go to Moab. And in talking to them, it's amazing how much you can learn from them about how they've modified their Jeep, why they modified it. So we have a new cargo management system, for example, in the back of the Wrangler, right? It's a trail rail cargo management system where it can be adapted to for container storage and to keep everything secure in place. And that specific example came from, it was a couple of years ago, we saw owners that had literally just screwed wood into the back of their Wranglers, put slide rails like you would for a dresser drawer, so they could move things in and out, coolers, equipment, to get to things easily. So it's those little nuances that we pick up from our owners that really drive the development process. I mean, everything that we change on the Wrangler is 100% functional. It's not just an aesthetic, you know, enhancement or evolution. Everything's done functionally. And the large part of that comes from our owners, designers internally too, of course.
But owners are typically doing more extreme transformation. Mm-hmm. I mean, they're, mm-hmm. when you own, you want to drive it as far as you can. So, of course, when you transform it, this is toward this target, which is not the case of a Wrangler. Like, for example, what you did, you softened the way it drives. It's a lot more quiet. You changed a lot. But I'm not sure that those owners would have chosen
absolutely
to do that.
Absolutely not. So, you know, go back to the social media. The great part about social media, when you have 5 million owners having a conversation among themselves every single day, you find out what they like and don't like. And that mainstream buyer that takes it as a daily driver, that's one of the issues, the exceptions they took with the vehicle was the drivability of it, right? It was rough. It wasn't very comfortable. Connectivity is obviously very important in the marketplace today as well. The hardcore owners, you're right, they don't care about the rough ride on the road. They don't care that the steering is a little bit vague. They don't care they don't have Bluetooth or navigation. Not an issue for them. But the everyday driver, that's what they want and that's what they expect. So a full suite of safety and security features are incorporated. You now have Apple CarPlay, Android Auto available, both on the 7-inch and the 8.4 touch radio. But to your point about the drivability, the frame was redesigned completely, right? We used a lot of high-strength steel to make it more robust, but at the same time, we have a brand new 5-link rear suspension. So with shock tuning and spring brakes, we've improved the drivability tremendously. And you can attest to that after driving it on road and driving a JK, it's vastly improved on road. The driving dynamics are much better. The steering's very precise, much less body roll. It absorbs the bumps. So the everyday drivability and livability of the vehicle, based on the driving and the connectivity and the technology and the safety features we brought in, that's to meet the mainstream customers part of it, because so many of them want to use this as a daily driver, but they struggle with some of the compromises they've had to make with the prior generation.
Of course, we're talking about the Wrangler, which is the iconic Jeep that everybody wants, but the new Jeep.
Yes.
So we're heading in another direction. We were talking about mainstream. This is obviously something that was really in your mind when you designed it in Cherokee.
Yeah, critically important vehicle. I mean, this is the largest SUV segment on the globe. And here in North America, it's over 3 million units alone here in North America. But at the same time, it's a very competitive segment with some very well-established players in it. When you look at the Toyota RAV4, the Honda CR-V, the Ford Escape, the Chevy Equinox, some very well-established players. So when we first introduced it, it was a bit dramatic when we introduced it. The styling, some people loved it, some people hated it, but it was still polarizing. And for as many people that did not care for the styling, when we looked at the customers that did buy it, many of them told us their top purchase reason was that, the styling. So this evolution of it, you retain that Cherokee look, right? You know it's a Cherokee instantly, but to bring it a little bit more mainstream and modify and adjust the front end, I think it's gonna just broaden the appeal of it. And then furthermore, we've added a lot of content standard on the Cherokee now to create a value proposition in the marketplace, because that owner really does. Values is a top priority to them. They want to get the most car, the most connectivity, the most capability, utility they can for their dollar. And I think now we found a really nice balance between those product attributes. So, you know, I talked about the CarPlay and Android Auto and the Wrangler. We make it available, but it's standard on all Cherokee trims going forward. So even the base trim gets the 7-inch Uconnect with CarPlay and Android Auto. We have the new headlamps. Not only are they new and repositioned, but they're LED headlamps and fog lamps, standard across the entire lineup. Improves the styling part of it as well, but there's a safety component to having that bright white headlamp in there as well, too. So we and that's standard across all trims. So you're not paying for this. And the we'll announce pricing later next week and the U.S. drive program. But it's been a very, very, very small price increase for the level of content that we've added just to improve the value proposition in that segment.
You've got the regular, you've got Cherokee. What's the next step for Jeep?
The next step is really, we can look back over the last 3 years and that'll give you a very good guide of where we're headed. I mean, these aggressive product actions that we've made over the last few years is what's driven the growth. I mean, last year we sold 1.4 million units worldwide, and the global expansion will continue, but we've been very aggressive in bringing the new Compass to market, a completely new design. The Renegade preceded that. And if you think 4 or 5 years ago, this compact UV, that segment didn't even exist. There was virtually no one in it. There was the Nissan Juke, which was very compact and small. But other than that, there were no players in that segment. Today, there's a number of very good players. Honda, Toyota, GM has a couple of offerings, the Renegade. So we'll continue to find that space that we're currently not playing in today is new opportunities. But we'll continue to focus on the existing lineup, including the Grand Cherokee, the Renegade, and continue aggressive product enhancements on those going forward. But there will be some new product offerings that allow us to reach out to new customers and new buyers as well.
Thank you.
Et pour la dernière entrevue, on va rejoindre M. Gad Bitton, qui est le propriétaire de la concession Rolls-Royce située à Montréal. Concession dont les bureaux vont déménager. Ils sont en train de construire une toute nouvelle concession. Et puis, on parle du futur de Rolls-Royce et aussi de l'investissement de M. Bitton dans cette nouvelle concession-là. Donc, je vous invite à monter le son un peu parce que l'entrevue, le son est très, très faible. Malheureusement, là, j'ai eu des petits problèmes avec mon enregistreur. Puis, le son est très, très faible. Donc, il va falloir monter un petit peu le volume si vous voulez bien entendre.
Alors, OK, on va parler d'abord de la nouvelle Phantom qui vient d'être dévoilée au Salon de Montréal. C'est une voiture qui est complètement refaite, une nouvelle structure. Ça nous amène... Qu'est-ce que vous disiez? C'est un V12 6.7?
Oui.
C'est ça qui est important à savoir?
C'est le V12 6.7 qui nous donne l'effet de tapis magique. Parce que la manière que le véhicule a été conçu, avec la frame en aluminium et la construction du véhicule et l'insonorisation avec ce moteur, c'est comme si ça faisait un tapis magique.
Sauf que, bon, c'est un investissement important. Comme je vous dis, la voiture elle-même, elle est impressionnante, bien entendu. Sauf que ça nous amène où chez Rolls-Royce? Parce qu'on avait l'impression que Rolls-Royce avait ralenti un peu certains éléments. Mais là, on est sur une nouvelle lancée avec ce véhicule-là.
C'est un peu le contraire. Rolls-Royce, c'est une évolution, ça fait 15 ans. Ils sont venus au marché avec la Phantom il y a 15 ans, 2003. Après ça, en 2010, ils ont introduit la Golf. Et puis à ce moment-là, je pense qu'en 2003, ils étaient décidés à avoir plus qu'une voiture. C'était une franchise d'une voiture. Maintenant, on se retrouve avec, je dirais, 5 modèles. Alors, l'introduction de la Phantom, c'est l'introduction de la nouvelle génération de Rolls-Royce. Parce qu'après ça, il y a un Rolls-Royce qui vient avec un SUV.
Ouais, ça bientôt. Ça, c'est les dupes pour l'été?
Pour l'instant, je pense qu'ils vont dévoiler, je n'ai pas la date exacte, mais c'est du lait pour un dévoilement l'été prochain, peut-être. Ils peuvent changer, mais ouais. Pour l'instant, c'est ce qu'ils planifient.
Sauf que là, c'est une autre philosophie. Pour vous, comme concessionnaire, de vendre des SUV, c'est pas la même, du moins, pas la même approche de client.
On pense que ça va être la même approche parce que les propriétaires de Rolls-Royce avaient toujours un autre SUV pour l'hiver.
Okay.
Alors maintenant, on veut essayer de recapturer nos clients qui ont des véhicules à passagers pour aller dans un SUV. Et on veut développer un nouveau marché, parce que le marché de SUV de luxe, comme ce que Bentley a fait, est définitivement présent. Alors, il y a Lamborghini qui sort avec un véhicule, il y a Bentley qui est sorti avec un véhicule, mais non, Rolls-Royce traditionnellement, comme les meilleurs, ils attendent jusqu'à la fin.
Vous parlez de marché, je sais que vous êtes actuellement en plein développement d'une nouvelle concession Rolls-Royce à Montréal. À quoi on peut s'attendre de ce nouveau centre Rolls-Royce?
D'abord, c'est une des plus grosses concessionnaires, un des plus gros concessionnaires Rolls-Royce, je pense, en Amérique du Nord, en termes de grandeur, pas en termes de volume. On pense que le marché canadien de Rolls-Royce va augmenter énormément dans les années qui viennent, particulièrement le marché au Québec, parce qu'il y a beaucoup de nouvel argent qui rentre au Québec, il y a beaucoup d'immigration au Québec, il y a beaucoup de développement au Québec. Alors, on peut s'attendre à un immeuble qui est extrêmement unique, moderne, vraiment, j'ai jamais vu un concessionnaire aussi beau que celui-là. C'est le mien, alors je vais être...
Vous êtes un peu pas objectif.
Je suis impressionné par mon immeuble moi-même. C'est impressionnant. C'est impressionnant. L'immeuble a été conçu pour la marque Rolls-Royce. Et l'immeuble a été conçu pour vraiment promoter le brand Rolls-Royce. Alors, il est situé sur Lake Harry. Il y a 600 000 voitures par jour qui passent par notre... immeuble. Alors, on a dépensé énormément, on a passé énormément de temps pour le design avec nos architectes et avec Rolls-Royce et avec la ville en particulier. Alors, ça va être vraiment impressionnant de voir.
C'est prévu pour ouvrir au cours des prochains mois?
On espère aménager pour la fin du mois d'avril, dans 3 mois.
Au moins, c'est vite.
Ça fait 3 ans que c'est en planification et puis 1 an de construction.
C'est un gros investissement, évidemment. Vous l'avez mentionné, mais juste me repréciser. C'est donc un geste de confiance important que vous faites vers le marché montréalais, là.
Oui.
Et vous êtes convaincu que Rolls-Royce a la place pour se développer à ce point dans un marché? Parce que vous avez, disons, un compétiteur Rolls-Royce à Toronto, donc vous êtes pas privé du marché ontarien. Vous allez donc vers l'Est. Et vous êtes persuadé que le marché va progresser suffisamment pour justifier ce genre d'investissement?
Oui. On pense, on est convaincu. C'est évident qu'on a une autre franchise qui est dans l'immeuble. Et avec les ventes de véhicules usagés de Rolls-Royce et les ventes de voitures luxueuses, avec l'usager et le neuf, ça va définitivement amener beaucoup d'opportunités pour ça. Ça justifie l'investissement.
On a parlé de la Phantom. On sait que la prochaine étape après ça, c'est le VUS. Enfin, dernière question. On s'en va où après chez Rolls-Royce? Une fois qu'on a, la Phantom qui est le summum de la voiture Rolls-Royce, on aura maintenant un VUS qui va s'adresser à une nouvelle clientèle, qui va aller recruter des nouveaux clients. C'est quoi la prochaine étape pour conquérir les marchés pour Rolls-Royce?
Je vais vous donner mon avis. L'avenir de Rolls-Royce. J'ai pas la permission ou j'ai pas les informations de Rolls-Royce, mais je peux vous dire que personnellement, d'après moi, la prochaine étape pour Rolls-Royce, c'est d'aller à 4 roues motrices, surtout leur modèle. Alors, une fois qu'ils vont percer ce marché, c'est une question de temps, ils vont faire beaucoup plus de compétition à des marques comme Bentley. Parce qu'il n'y a pas une marque aussi bonne que Rolls-Royce au monde. Il n'y a pas de comparaison entre Rolls-Royce et Bentley.
En tout cas, vous êtes convaincu. Mais voilà, je vous remercie beaucoup. Ça ne sera pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup.
Alors, on fait une dernière petite pause, puis on revient immédiatement avec le dernier bloc.
Donc, Marc, ça conclut l'émission de cette semaine. Émission spéciale sur le Salon de Montréal. On voulait parler du Salon de Détroit, mais là, on va faire une place au Salon de Montréal cette semaine. On parlera de Détroit la semaine prochaine.
Moi, je pense que honnêtement, le Salon de Montréal le mérite cette semaine. On est là, on l'a visité. Détroit, je pourrais vous en parler. Je suppose que de toute façon, il y a plusieurs modèles que vous avez déjà vus. Puis, j'ai fait exprès de t'envoyer une photo de la Mustang Bullitt,
oui.
Juste pour te faire suer un petit peu. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai vu l'original. On pourra en reparler la semaine prochaine. J'ai rencontré Mme McQueen aussi, qui est la petite fille de Steve.
Non, pas la sœur de Flash?
Non, pas la sœur de Flash.
Okay, c'est
quelle culture. Parlant de Flash, ici au Salon d'auto de Montréal, vous avez au moins, comment il s'appelle le
remorque? Mater?
Mater.
Ouais, mais...
Non, c'est correct. Il y a une section qui s'appelle la zone performance où il y a des voitures tunées, pimpées, et il y a Mater à l'intérieur. Bien sûr, on n'a pas parlé non plus des deux présidents d'honneur de cette année encore. Bertrand Godin, qui en est à sa 17e année, on y a parlé la semaine dernière. Denis Talbot, le spécialiste techno, qui est aussi ici comme président, comme porte-parole.
Mais c'est sa deuxième année? Troisième année?
C'est sa troisième année. Donc, c'est des gens qui vont parcourir le salon. Si vous venez faire un tour, ils vont être ici. Alors, voilà. on vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, on va parler de Détroit, on va vous parler des essais, on va vous parler d'actualité et on va vous parler d'un concours qu'on veut organiser avec Turo pour vous donner la chance de gagner des cours de conduite hivernale avancée par Marie-Laurence Paquin dans la région de Sanerre. Les cours ont lieu en mars. Donc, on aura tous les détails pour ce concours-là. Luc, si tu veux le garder pour toi, pour apprendre à conduire en hiver, tu peux, là.
C'est correct. Normalement, les personnes qui sont impliquées dans un podcast ou émission de radio qui a un concours ne sont pas on peut pas participer.
Non, mais je me disais que peut-être, pour des raisons de sécurité, tu souhaitais apprendre à conduire l'hiver, mais ça va être correct.
Regarde, si les auditeurs disent, tu sais, t'en as vraiment besoin, ben, je serai le seul à participer. Sinon, on va laisser participer les gens. Donc, je vous invite à participer en grand nombre quand le concours sera en ligne, parce que un cours de conduite hivernale, c'est vraiment essentiel au Québec. C'est quelque chose qui devrait être obligatoire.
Effectivement. Et c'est intéressant parce que c'est fait avec Turo. Turo, c'est une nouvelle plateforme, en fait, de location automobile d'individus. On vous en parlera davantage aussi la semaine prochaine.
Nouveau au Canada. En Europe, ouais. Ça fait longtemps que ça se fait. Puis il y a quelques même compétiteurs en Europe qui font ça. Là.
Effectivement.
Cédric, qui est notre auditeur français, pourrait corroborer ces dires. Là. Ça existe depuis un bout de temps. Là.
Effectivement. Et bon, chez nous, vous pouvez consulter le site de Turo. Vous allez voir, il y a des modèles. Il y avait même une modèle S qu'on pouvait louer sur Turo.
Ça pourrait être intéressant. Marc, pour finir, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils ça?
Ben, sur mon blog, marcbouchard.ca, plus ma page Facebook. Je vais avouer que j'ai négligé mon blog depuis deux semaines. Alors, plus ma page Facebook ou mon compte Instagram, Bouchard-Marc. Toujours Twitter, Marc-Bouchard. Et bien sûr, info@saroulradio.com. Mm-hmm. C'est l'adresse courriel où on n'a pas reçu de questions cette semaine.
Mais non.
Alors, je veux chicaner les auditeurs.
On ne chicane personne. Si ça leur tente, ils nous écrivent. Si ça leur tente pas, ils nous écrivent pas. Mais on aimerait ça que ça vous tente.
Mais moi, je vous chicane carrément. Donc, envoyez-nous des questions, ça nous ferait grand plaisir.
Tu veux faire bon cop, bad cop, là, c'est ça? Là? Je suis le bon cop, t'es le bad cop.
C'est ça, exactement. Okay. C'est bon. Exactement.
OK. Donc,
culture cinématographique, je suis impressionné.
C'est ça. Moi, Twitter, Rascalazormo. Sinon, il y a le compte Ça Roule Radio sur Twitter aussi. Comme Marc dit, info@saroulradio.com pour nous écrire. Vous pouvez nous télécharger, hein, pas nécessairement physiquement nous, mais l'émission sur iTunes et sur Google Play.
Ça va vous prendre pas mal de data si vous voulez nous télécharger.
Puis un gros fil. Et puis aussi, vous pouvez nous écouter sur Radio H2O, sur sportradio.ca et sur Radio Média, plus trois radios Internet qui nous aiment et qui nous diffusent.
Voilà, mon cher. Alors, ça met fin à l'émission pour cette semaine. On s'excuse encore pour la qualité sonore. Ça se peut que vous ayez entendu des drôles d'affaires en cours de route.
Des balayeuses et tout ça, mais on se reprend la semaine prochaine.
Et si vous écoutez attentivement dans l'entrevue avec Ford, vous entendez même un petit mot de la responsable des relations publiques de Ford, Christine Hollander, qui assistait à l'entrevue, qui était assise derrière et qui n'a pas pu s'empêcher de corriger le fait que j'ai dit que la nouvelle Bullitt avait 10 chevaux de plus et elle m'a dit non, 12. Alors, voilà, on a une entrevue avec Christine Hollander.
Bon. Les faits, c'est les faits.
Les faits, c'est les faits.
Alors, merci tout le monde, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye.
Bye.